travail. Ceux qui donnent du travail, ceux qui travaillent, ou ceux qui ont conscience que pour réussir, il faut travailler.
Créer de l'enchantement dans votre quotidien. Un salarié heureux, client heureux.
Dernier point, c'est important que le manager aide son collaborateur à développer son employé.
Il y a chez la NUPES les gens qui n'aiment pas le travail, qui n'aiment pas la valeur travail, qui veulent se suicider sans effort, sans travail, et qui mentent finalement aux Français parce qu'ils disent qu'on pourrait très bien vivre sans travail.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Galère et vous écoutez Galère de Taf. À chaque émission, on vous propose de discuter d'un ouvrage qui développe une pensée critique sur le travail, que vous n'avez peut-être pas eu le temps de lire si vous travaillez trop, ou que vous n'avez pas pu acquérir si vous ne travaillez pas assez.
Pour cette troisième émission qu'on a intitulée « Vocation-exploitation », on a choisi de vous parler du livre « Te plains pas, c'est pas l'usine, l'exploitation en milieu associatif » qui a été écrit en 2020 par Lily Zalzette et Stella Fine à Agnette Édition. On a eu envie de faire une émission sur les milieux associatifs parce que c'est dans ce domaine qu'on évolue toi et moi et nos expériences personnelles nous ont fait respectivement nous rendre compte que même si les assos sont souvent décrites comme étant des lieux d'épanouissement au travail, qui sont en dehors du système capitalisme, qui ont du sens et de l'éthique, finalement elles n'échappent pas aux logiques de productivité et de compétitivité et on y retrouve même des dynamiques d'exploitation qui leur sont spécifiques.
Oui, en fait, on avait vraiment un intérêt personnel pour ce livre. Je pense qu'à la base, c'est cette lecture qui nous a donné envie de faire l'émission. Comme on est directement concernés, que ce soit par nos études ou nos diverses expériences pro, je me rappelle qu'on l'avait lu toutes les deux, ça nous avait beaucoup parlé. On avait pas mal échangé là-dessus et du coup, on avait bien envie de vous en parler aujourd'hui. Ouais.
Ouais. Toi, tu as des expériences dans le médico-social et moi, j'ai de l'expérience aussi dans le socio-culturel. Ce qu'on va décrire dans l'émission, moi, il y a vraiment des choses que j'ai vécues comme les horaires à rallonge, la succession de contrats précaires et puis des réalités du travail associatif comme l'impact des politiques publiques sur le travail au quotidien.
Ouais, c'est ça. Et puis moi, en ce qui me concerne, j'ai déjà eu l'occasion de faire des stages dans plusieurs assos, puis je bosse aujourd'hui plutôt comme travailleuse sociale. Mais j'avais pris un an de plus pour faire mon master et j'ai vraiment vu tous mes potes qui avaient fini plus tôt que moi galérer à fond à essayer de trouver des tafs pas trop précaires dans le milieu, enchaîner les statuts, les heures sup non payées, les missions bénévoles, etc. Et une autre raison pour laquelle on a eu envie d'aborder ce sujet, c'est que, encore une fois, on pense qu'analyser les logiques à l'œuvre, mettre des mots sur l'exploitation, comprendre les causes de la souffrance au travail, ça permet déjà de se déculpabiliser, de se sentir moins seul, et puis éventuellement d'entrer en résistance et de lutter, quoi.
Alors, donc pour revenir sur le livre « Te plains pas, c'est pas l'usine les autrices, elles font d'abord un petit récap historique de comment sont nés les assos. Et en fait, on comprend à travers ce récap quelle est la logique qui est aujourd'hui à l'œuvre. Donc, elles reviennent d'abord sur cette fameuse loi 1901. Donc, elles expliquent qu'à ce moment-là, l'État, il s'agissait de reconnaître les formes des associations plutôt que de lutter contre elles. Mais c'est au début des années 70 qu'il y a eu un vrai essor des associations qui a été impulsé par l'État, qui était pour répondre à une crise économique et sociale, mais aussi parce que c'était la période de nouvelles revendications comme les luttes féministes ou les luttes antiracistes. Donc c'est par exemple en 83 qu'est créé SOS Racisme. Donc en fait, pour l'État, c'est une manière de légitimer les formes de lutte qui ne mettent pas en danger le gouvernement en place, en fait. À cette période, les assos vont tenter d'accompagner deux phénomènes. Donc d'un côté, la fin du plein emploi et de l'autre côté, la réduction des dépenses publiques. Pour la réduction des dépenses publiques, c'est-à-dire le début de la casse qu'on connaît encore aujourd'hui des services publics, où on va commencer à privatiser à outrance le transport, la santé, etc. Et en parallèle, on va réduire le nombre de postes de fonctionnaires. Jusque dans les années 90, ensuite, les assos se développent avec le soutien de l'État parce que les associations répondent à des besoins de société. Dans cette grande sous-traitance qui ne porte pas son nom, les assos sont dépendantes des subventions, mais à cette période-là, à cette époque, elles sont encore autonomes. Et ce qui est intéressant, ce qu'on identifie dans ce bouquin, c'est qu'il y a un vrai tournant dans les années 2000. Il y a toujours cette volonté de réduire les dépenses publiques au niveau étatique et de rendre. Il y a aussi une autre tendance, c'est de rendre les assos compétitives entre elles, compétitives avec le secteur privé.
Donc, et entre elles aussi.
Et entre elles aussi, ouais. Donc, le gouvernement met progressivement fin aux subventions qui sont dites les subventions de fonctionnement pour passer aux financements qui sont des financements par projet. Et donc ça, c'est vraiment important. C'est vraiment le moment où le secteur associatif se structure comme un véritable marché, en fait. L'État ne verse plus de subventions pour exister, mais pour s'adapter aux besoins constatés par l'État. Et en fait, ces subventions par projet, ça permet au gouvernement de passer des commandes aux associations en diffusant des appels d'offres auxquels les associations répondent et qui répondent en fait à un besoin, à un manque au niveau de l'État. Donc l'action de l'asso à ce moment-là, elle est plus guidée par des réalités de terrain, mais par la nécessité de s'orienter dans le sens des besoins qui est défini par l'agenda politique de l'État. Et donc c'est ce que tu soulignais tout à l'heure, en fait cette logique crée une compétitivité avec les assos entre elles. Ensuite, il y a une partie aussi du livre, et ça, c'est ce que je vois moi aussi dans mon travail sur les appels à projets, enfin, ce terme appel à projet et cette tendance générale. Ces appels à projets, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont particulièrement flous et verbeux, quoi. On y trouve toujours les mêmes termes comme local, démocratie, citoyenneté, solidarité. J'ai fait mes petites recherches, par exemple, pour appuyer cet exemple, c'est... Il y a dernièrement la DRAC de la région PACA qui a lancé en mars dernier un appel à projet qui s'appelle « Culture et lien social » destiné à favoriser et à soutenir les actions culturelles dans les quartiers prioritaires de la ville des Bouches-du-Rhône au bénéfice de ses habitants. Voilà. Mmh. Et en fait, ce mécanisme des appels à projet fait que les salariés dépensent une énergie énorme pour y répondre, en fait. Donc, il y a des bilans, des dossiers à écrire. Et pour remporter ces appels à projets, il faut aussi savoir parler ce langage, en fait. C'est vraiment ce que j'ai aussi observé dans mon travail, pour que notre dossier soit retenu. Il faut savoir parler le langage, mais il faut aussi un peu fricoter avec le monde politique. Donc, il faut écrire ce que monsieur Machin de la région aime entendre. Et c'est pas pareil que ce qui fait ronronner monsieur Bidule de la métropole, quoi. Et en fait, l'effet pervers dans tout ça, c'est que quand on a répondu aux attentes de l'appel à projet, l'asso, elle devient particulièrement inutile.
Partiellement, oui.
Partiellement, ouais. Ouais, parce que si on répond aux attentes, enfin, la logique, quoi, si on répond à l'appel à projet, eh ben alors, une fois le problème résolu, l'asso n'a plus vraiment de raison d'exister.
Et donc, après ce chapitre un peu qui retrace l'histoire, qui nous permet de mieux comprendre les logiques aujourd'hui, on va aborder les spécificités de l'exploitation associative. Donc, les assos, comme tu disais, Pauline, elles sont sommées d'être compétitives et elles vont répercuter la précarité sur leurs salariés. Réduire les coûts, ça implique de faire travailler les salariés plus pour moins cher. Et donc, comment est-ce qu'on va faire ça ? Eh ben, on va utiliser tout un dispositif de temps partiel et de statut précaire. Il y a beaucoup moins de CDI dans le secteur associatif que dans le privé lucratif. Il y a beaucoup plus de contrats dits atypiques. Donc dans ce paysage, on va retrouver les contrats aidés qui sont apparus à la base pour combattre le chômage et ils permettent à une structure de faire financer par l'État une partie du salaire d'un employé. Mais en fait, les modalités, les enveloppes, elles sont hyper instables. Donc tu vois, on a le CUI, CAE, les contrats PEC, emploi franc, emploi d'avenir, etc. Aucun de ces contrats, pourtant limités dans le temps, ne permet de toucher la prime de précarité. Pourtant, ils sont précaires, ils sont sous-payés et ce sont rarement des plein temps. En plus de ça, on a un usage massif de certains types de conventions qui ne sont pas des contrats de travail. Tu vois, on a le statut auto-entrepreneur qui va permettre aux structures de payer moins de cotisations. Elles vont avoir aucune obligation vis-à-vis des travailleurs et donc ça, c'est toujours dans une logique de flexibilité pour s'adapter au marché, quoi. On a aussi les multiples formes de bénévolat ou de volontariat qui sont plus ou moins gratifiées. L'exemple par excellence, c'est le service civique. Donc, pour les moins de 25 ans, de 6 mois à 1 an, de mission dans une asso ou un service public, pour une somme qui avoisine les 500 euros par mois. Ce qui n'est pas censé remplacer un emploi salarié, mais en réalité, le service civique, il peut souvent s'apparenter à du salariat précaire déguisé. En fait, on le voit très bien, quoi. Tu as des services civiques qui pourraient avoir une fiche de poste complètement. Moi, je me rappelle que quand je cherchais du taf dans le socio-culturel, il y avait beaucoup de fiches de poste d'emploi que j'aurais pu occuper qui étaient proposées en stage ou en service civique.
Et ça, quand tu dis les fiches de poste en service civique, j'ai par exemple aussi été checker un peu. Bon, il y en a vraiment, je n'ai pas galéré pour trouver d'exemple, il y en a vraiment plein, mais là, j'ai vu par exemple une offre à l'hôpital de la Conception en réanimation polyvalente où la fiche de poste, c'est vraiment le volontaire doit accueillir, orienter les familles qui se présentent au centre des brûlés de l'hôpital de la Conception, renseigner sur les recommandations du service, hygiène horaire, faire le lien avec les familles et l'équipe soignante, gérer le matériel du bureau d'accueil, enfin, c'est une vraie fiche de poste quoi. Dans un hôpital en service civique, payer 450 euros par mois, c'est vraiment énorme. Et puis aussi ce que tu décris auparavant, tous les contrats précaires, à titre personnel, je suis passée par tous ces contrats quoi. J'ai été vraiment bénévole, auto-entrepreneur, en contrat PEC, en emploi franc, enfin, j'ai jamais eu de vrai contrat de travail depuis le début.
Ouais, en fait c'est ça, ce qu'on voit c'est que dans les faits la distinction salariat-volontariat, elle est essentiellement imaginaire, enfin, mis à part le salaire, tout est très semblable, que ce soit les tâches, la charge de travail, l'environnement de travail, etc. D'ailleurs on voit qu'il y a une croissance qui est importante du recours au service civique. J'ai checké, entre 2017 et 2021, il y a environ 80 000 jeunes qui ont commencé une mission chaque année, et c'est 4 fois plus qu'en 2014, donc c'est énorme.
On avait aussi relevé un petit passage du livre à ce propos qu'on trouvait intéressant, que je vais vous lire. Les salariés ne foutent rien dans leur bureau. C'est
un petit témoignage
qui nous a fait marrer, de quelqu'un qui témoigne qui était service civique. Donc, les salariés ne foutent rien dans leur bureau, semblent noyés dans leurs problèmes, etc. Mais ils n'arrêtent pas de répéter que ce qu'ils font, c'est bien. On a l'impression qu'ils sauvent le monde. Moi, je me fais juste chier et les gens me parlent mal.
Ouais, et puis en fait, la dernière trouvaille en date, c'est le SNU, donc le Service National Universel, qui est encadré par l'armée et qui va comprendre une phase d'engagement associatif sans aucune rémunération. On peut aussi penser au nouveau dispositif La France Travaille qui prévoit de conditionner le RSA à 15 heures d'activité par semaine. C'est encore un moyen de faire baisser le prix du travail, quoi. On a donc une avalanche d'emplois, de sigles, de dispositifs éphémères qui vont durer le temps de combler un besoin ou le temps d'un effet d'annonce. Et tout ça, ça va créer un sous-prolétariat associatif.
Ouais, c'est ça. Et en fait, finalement, ce que ça veut dire, c'est que les travailleurs et travailleuses associatives, c'est en quelque sorte les sous-traitants du secteur public, quoi, qui coûtent finalement beaucoup moins cher que des fonctionnaires. Y a aussi une partie du bouquin qui est liée à créer et défendre son emploi. Donc, en fait, les autrices expliquent, ce qu'on observe aussi, quand on est salarié, on doit constamment défendre son poste et son emploi. En fait, avec ce système du fonctionnement par projet, comme j'expliquais tout à l'heure, la mise en sous pression est permanente. Les assos semblent toujours aller mal. Du coup, les salariés consacrent une énorme partie de leur temps de travail à reproduire ce cadre de travail. C'est plein de petits bricolages absurdes qui permettent de répondre aux besoins qui sont changeants et qui sont définis par les calendriers politiques de l'État. Les salariés doivent presque toujours trouver des financements pour leur propre poste, ce que je disais tout à l'heure, et trouver des astuces pour être éligibles à certains dispositifs d'aide ou de subvention. Enfin, c'est vraiment du bricolage, quoi. Ça m'était arrivé, par exemple, à Bruxelles. Enfin, quand je travaillais dans l'asso à Bruxelles, on m'avait dit, si tu veux rester, ce serait cool que tu trouves une subvention. Du coup, j'avais trouvé une subvention de 3000 euros, qui avait un peu rien à voir avec mon poste, mais de digitalisation des musées. Et donc, on m'avait dit, tiens, super, tu vas pouvoir créer ton statut auto-entrepreneur pour être payé les 3 prochains mois. Enfin, ce genre de bricolage, quoi. Donc, les efforts, en fait, à fournir pour obtenir la possibilité d'être embauché ou d'être reconduit dans une asso reposent presque toujours sur le ou la salariée elle-même. C'est des bricolages qui servent qu'à se conformer à un cadre qui, lui, est toujours changeant. Les associations s'adaptent, elles pérennisent pas de postes, elles multiplient les contrats courts, elles peuvent embaucher plusieurs personnes à la fois sans cumuler d'ancienneté. Tout est précaire tout le temps, quoi. Et ça crée un truc qui n'est pas cool avec ça, c'est que comme il y a un gros turnover, etc., la qualité du travail fourni et les bénéficiaires qui sont censés bénéficier
des missions
de l'asso en bénéficient pas, quoi.
Ou en tout cas, ça impacte la qualité, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et donc, pour réduire les coûts, les salaires ils doivent être bas et il va falloir allonger le temps de travail sans le payer. Mais pour que les salariés acceptent, ils doivent être convaincus de l'importance de leur mission. Ils doivent être responsabilisés, voire culpabilisés. Parce qu'il y a un vrai attrait pour le travail associatif et c'est normal parce qu'on imagine un travail qui est éthique, qui est gratifiant, qui est porteur de sens, qui est collectif, qui est politique, etc. Donc ça crée une culture du dévouement. Ce sont les travailleurs les plus précaires qui sont généralement en bout de chaîne, au contact direct des bénéficiaires ou des usagers. Du coup, à défaut d'un bon salaire, c'est la reconnaissance qui va être un moteur de dévouement important. Et cette dimension éthique et cette idéologie du dévouement, elle va se déployer aussi dans la dimension managériale. L'asso, elle va mal de façon structurelle. Personne n'est responsable, on est tous dans le même bateau. Et attention, si ça va bien, avec les appels à projets, les réformes, les marchés publics, ça pourrait bientôt aller mal. Et si ça va mal, ça pourrait bientôt aller mieux si on se donne à fond pour tenir. Mais en fait, il faut se rappeler que si on est tous dans le même bateau, c'est quand même jamais les dirigeants qui vont se retrouver dans des salles trop petites, en manque de matos, surbookés, etc. quoi. Donc, en gros, on se dit que les gens ils vont être dans la merde si ça tourne mal. Donc, on va stresser, c'est les heures sup, on ne peut pas laisser tomber nos collègues, on ne peut pas laisser tomber les usagers, les bénéficiaires. Et donc, le dévouement, il n'est pas seulement fondé sur la valorisation et sur l'engagement, mais aussi sur le stress et la culpabilité. C'est un peu... c'est les deux revers d'une même médaille quoi, de cette exploitation liée au dévouement. D'un côté, tu as... la valorisation de l'engagement et de l'autre côté, t'as le stress, t'as la culpabilité, quoi. T'as peur d'être mal vu par tes collègues, t'as peur d'être perçu comme n'adhérant pas assez au projet commun. Du coup, ne pas compter ses heures, ça fait vraiment partie intégrante de la culture associative. Ça fait partie intégrante du fonctionnement, quoi. Et ce qui est piégeux là-dedans, c'est que ça donne une fausse impression de marge de manœuvre et d'autonomie. Finalement, on gère sa propre exploitation et on récupère jamais nos heures, quoi. Donc ce discours du dévouement, il va donner l'impression que personne ne donne d'ordre, qu'il n'y a aucune contrainte, à part la volonté de bien faire, du coup. Et l'employeur, il apparaît jamais comme un patron, parce que ses intérêts, ils coïncident avec ceux des employés, le bon fonctionnement de l'asso. C'est pas sa faute, c'est parce que l'asso va mal, comme on disait tout à l'heure. Interroger les rapports hiérarchiques ou nommer les places de pouvoir dans ce secteur-là, c'est vraiment mettre à mal le sentiment de communauté au sein de l'association, quoi. Et c'est vraiment les salariés eux-mêmes ou elles-mêmes qui travaillent à reproduire la structure pour laquelle ils bossent, comme tu disais tout à l'heure, Pauline. Pourtant, il y a une direction, mais le rapport employeur-employé, il est toujours invisible. Enfin, tu vois, si tu bosses beaucoup, c'est parce que tu dois boucler un appel à projet proposé par la ville. Si tu réponds pas à temps, c'est la ville qui te coupe les subventions et tu perds ton poste. Le patron associatif, il est triple. Tu as le directeur, le conseil d'administration et les pouvoirs publics. Et aucun ne s'identifie comme ton donneur d'ordre réel. C'est, enfin, d'où des rapports de pouvoir qui sont hyper diffus et qui sont très invisibilisés, quoi.
Ouais. Ça, c'était assez intéressant, ce truc-là. Je pense que je l'ai un peu conscientisé, moi, en lisant le bouquin. Je l'avais pas vraiment en tête avant, mais je trouve ce point intéressant. Il y a aussi le syndrome du patron de gauche qui est un petit peu lié à ça, où il existe du harcèlement, du racisme, du sexisme dans les milieux associatifs. Et en fait, le problème dans tout ça, c'est qu'il est invisibilisé, plus dur à dénoncer. Ces situations-là que je définis, le racisme, le harcèlement, c'est pas spécifique au secteur associatif, bien sûr, mais en fait, ce qui est différent, ce qui est particulier ici, c'est l'écart entre les pratiques et le discours. En fait, tu peux avoir une asso qui va défendre le racisme, etc., et au sein même de l'organisation.
Enfin, qui va défendre l'antiracisme.
Oui, l'antiracisme, pardon.
Et qui va reproduire des rapports de pouvoir et de domination.
Ouais. Complètement. Et ça, c'est...
Ça, c'est dur, c'est insidieux et c'est dur à dénoncer, quoi.
Ouais.
Donc là, on arrive à un autre point qui est soulevé par les autrices, c'est l'identité absorbée par le travail. Donc c'est le constat que les travailleurs du secteur, ils savent plus quand ils travaillent et quand ils font les choses par conviction. Ils vont se sentir eux-mêmes responsables de l'absorption de leur vie par le taf. Ils ont constamment l'impression de produire les conditions de leur propre galère, que c'est eux qui gèrent pas assez bien leurs émotions, qui gèrent pas leur temps, qui gèrent pas leur stress, etc. Et en plus, ils sont souvent embauchés par réseautage ou par cooptation, donc pour leur profil social, pour ce qu'ils représentent. Donc la vie et le travail vont fusionner dans une sorte d'identité. Et ça peut être très violent parce que quand ça va mal, c'est pas juste notre taf qui est remis en question, mais c'est notre identité, c'est ce qu'on est. Donc il peut y avoir un sentiment d'échec et de culpabilité qui est très prégnant, quoi. Et donc les autrices, elles relèvent que les femmes, elles sont très sujettes à ce mécanisme-là parce qu'il y a une vraie assignation au care, donc aux soins. Et il y a 70% des salariés en asso qui sont des femmes.
il y a aussi un point sur est-ce qu'on lutte contre les discriminations ou on s'en sert. Donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. J'ai écouté une interview de Lily Zalzet, qui est l'autrice, une co-autrice du livre, du coup, et qui explique ça. Elle dit il y a ce truc de recruter des Noirs ou des Arabes dans les assos pour aller bosser dans les quartiers, leur demander de faire de la médiation sociale avec leurs pères et de rester des jeunes de quartier. En gros, ils n'ont pas accès à un autre statut social. On leur demande de faire les bons jeunes de quartier. Et les autrices, donc, comme tu disais, rappellent que les femmes et les personnes donc, issues de l'immigration sont, comme d'hab, les personnes les moins valorisées et les plus précaires dans ces emplois-là. À Marseille, c'est encore plus fort, ces chiffres. 63% des travailleurs et travailleuses du secteur périscolaire interrogés déclarent avoir au moins un parent né à l'étranger. Et à l'échelle nationale, c'est 25%. Donc 63 contre 25, c'est assez impressionnant.
Et ça me fait penser aussi à un autre passage du bouquin qui est intéressant dans cette question de, finalement, est-ce qu'on lutte contre les discriminations ou est-ce qu'on s'en sert à notre profit pour faire de la sous-traitance de services publics, quoi. Elle racontait, les deux autrices, qu'elles étaient allées à une manif, enfin, elles avaient tracté auprès de jeunes qui cherchaient des services civiques, justement des tracts qui critiquaient la précarité du statut de service civique. Et en fait, elles n'avaient pas du tout eu le même accueil selon sur qui elles tombaient. Tu vois, tu avais des jeunes qui étaient plutôt bien insérés socialement, qui avaient eu accès à des études diplômantes, etc., qui étaient réceptifs aux propos. Et puis, tu avais d'autres jeunes qui, eux, disaient « Mais en fait, si vous luttez contre le service civique, vous luttez contre notre seule chance d'accéder à une faible rémunération dans une activité qui est un peu valorisante, mais c'est quand même une rémunération, quoi. Mmh. » Et donc, en fait, il y a aussi ce côté où on se sert de personnes qui sont stigmatisées socialement ou plus marginalisées, qui n'ont pas accès à l'emploi, qui vont du coup accepter des gratifications qui sont extrêmement faibles, mais c'est la seule forme de rémunération qu'ils espèrent trouver dans une activité qui a un peu de sens, quoi.
Ouais. Et par exemple, le service civique, il y a un peu de volets, quoi, parce que t'en as pour de vrai, c'est une sorte de tremplin vers l'emploi, quoi.
Ouais, mais beaucoup, pas pour tout le monde.
Et en fait, moi, j'observe les gens pour qui c'est tremplin vers l'emploi, c'est des gens blancs, cultivés,
déjà diplômés,
etc. Et en fait, les autres, c'est ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'accepter ça.
Et qui vont souvent enchaîner des petits contrats et des petits statuts précaires indéfiniment, quoi.
Ouais.
Bon, comment lutter maintenant?
Déjà, je pense, une des premières choses à faire pour tenter de lutter, c'est de désigner le travail associatif comme étant du vrai travail et pas uniquement comme un engagement ou un dévouement. Ça, c'est hyper important. Faut vraiment tenter de sortir de cette logique de « on est tous dans le même bateau, on se dévoue collectivement pour le projet associatif ». Je sais que c'est facile à dire et difficile parce qu'en fait, quand on est embarqué dans une équipe, on n'a pas envie de lâcher ses collègues. On crée des liens avec eux et donc c'est assez dur. Mais
déjà parler de ces logiques-là avoir conscience que travaille en fait, et c'est pas parce que il y a un engagement derrière que c'est pas du travail pour autant, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis il y a tout un truc, je pense, considérer les services civiques et les stagiaires, je pense que tu vois, nous on déconstruit notre manière dont on pense le travail et ça doit se ressentir dans la manière dont on l'applique, et donc j'imagine que c'est ça, quoi,
c'est en parler autour de nous, se rappeler nos droits, quoi.
Ouais.
Je pense qu'il faut aussi questionner les rapports de pouvoir et les rapports de classe qui existent au sein même des assos. Tu vois, les autrices, elles prenaient l'exemple en 2017 d'une mobilisation qui avait eu parce que le gouvernement avait menacé de ne plus financer les contrats aidés. Donc, il y avait eu cette grosse mobilisation. Et étant donné que le pouvoir, comme on le disait tout à l'heure dans les assos, il est protéiforme, il est diffus, il est insidieux, et que la famille associative, en fait, c'est un mythe, cet événement, cette mobilisation, elle a souligné que tous les acteurs du secteur, ils sont pas dans la même position quant à la gestion de l'enveloppe associative par l'État. Mmh. Tu vois, cette menace de suppression, elle avait pas du tout les mêmes impacts pour tout le monde, quoi. Mmh. Donc, il y a ces différences de statut et de conditions de travail, et toutes ces questions de rapport de pouvoir et de rapport de classe continuent de peser sans jamais être discutées ou adressées. En fait, les chefs et les employés, ils sont côte à côte, mais ils ne sont pas au même niveau, quoi. Y a aussi une petite partie dans le bouquin où, en gros, l'idée, c'était de dépasser la frontière entre nous, les travailleurs, et eux, les publics, les bénéficiaires de notre action, pour s'allier face à l'État. Prendre conscience que travailleurs associatifs et bénéficiaires, ils sont beaucoup plus dans le même bateau que ce qu'on peut imaginer, et qu'ils subissent, à certains endroits, relativement de la même manière, les politiques publiques ou le manque de politiques publiques. Après, c'est une partie qui est intéressante, mais qui était assez théorique qui était un peu survolée, mais je trouvais que c'était quand même intéressant de le souligner.
C'était pour créer des alliances en fait entre les salariés, les
travailleurs et les bénéficiaires de telle ou telle action et se rendre compte qu'en fait on subit tous et toutes les politiques de casse des services publics et néolibérales de l'État quoi.
Aussi, faut pas oublier qu'il existe le syndicat Asso. C'est un syndicat qui est créé en 2010, qui permet de s'organiser collectivement, échanger, s'informer et se regrouper pour parler de ça. Il revendique ce dont on a parlé là, donc c'est l'interdiction d'embaucher des salariés en contrat précaire, les auto-entrepreneurs, services civiques, etc. Il revendique les CDI pour toutes et tous, la diminution et le partage du temps de travail, une revalorisation du salaire, parce que ça on en a pas trop parlé, les salaires sont bas quoi. Il revendique aussi des subventions pluriannuelles de fonctionnement, donc comme on en a beaucoup parlé, arrêter
de pérenniser les emplois,
Et aussi il y en a plein d'autres, mais l'arrêt de la mise en concurrence du secteur associatif en arrêtant les systèmes des appels d'offres et le système de redistribution des subventions pour que ce système soit géré collectivement.
Ouais, créer un système de redistribution des subventions qui soit géré collectivement.
Et puis si jamais vous avez des petits doutes, des questions, enfin ils ont édité un petit livre qui s'appelle Le guide d'autodéfense à l'usage des salariés de très petites associations, qui est assez intéressant, qui est en libre accès sur leur site.
Et pour finir, une dernière piste, ce serait aussi de s'organiser au-delà du secteur associatif. Donc vraiment créer des alliances intersecteurs et interprofessionnelles pour construire un rapport de force face à l'exploitation qui fait rage de toute façon dans tous les secteurs. Parce que en fait, les conséquences désastreuses des politiques néolibérales et de casse des services publics, il n'y a pas que les salariés de l'associatif qui les subissent. Et en fait, essayer de créer un rapport de force en s'alliant entre différents secteurs, quoi. C'est ce qu'il y avait, tu vois, pendant le mouvement des retraites, là, à Marseille, il y a eu la création de l'AG Interpro et des initiatives comme ça, ça donne de la force et c'est intéressant aussi, quoi.
Bah, l'AG Asso aussi.
Hein. Et l'AG Asso qui a été créé aussi à ce moment-là, ouais. C'est ça, c'est se regrouper, parler de nos conditions de travail et se mettre en lutte collectivement, quoi.
Donc on rappelle le petit livre, si vous avez envie d'aller l'acheter, même si je crois
qu'il est à la bibliothèque aussi,
il est à l'Alcazar. Ouais. Il coûte 8 euros, il se lit très vite, il est vraiment très chouette. Voilà, on vous conseille de le lire. Et puis pour finir l'émission, on va vous faire écouter le témoignage de Léno, qui a une petite expérience représentative du pire qui puisse arriver dans une asso. Voilà, je vous laisse écouter ça. Merci à elle pour le temps qu'elle nous a consacré.
On espère que ça vous a plu, on espère que ça vous a donné un peu de force. Et puis il y a un autre ouvrage aussi qui est hyper intéressant là-dessus, qui s'appelle « C'est pour la bonne cause », qu'on vous recommande aussi. Et ben, on se retrouve le mois prochain et à très vite.
À très vite.
J'ai travaillé pour une asso où en gros on nous demandait, au lieu de faire du bénévolat pour de vrai, de s'engager à travailler un certain nombre de temps. Donc on avait un contrat de bénévolat qu'on devait signer, selon lequel il fallait qu'on s'engage à travailler 35 heures pour cette personne, avec 2 jours de congé par semaine. Et si on devait s'absenter, il fallait aussi qu'on prévienne à l'avance pour que la personne puisse s'organiser. Donc en vrai c'était un vrai travail dans le sens où il fallait ouvrir totalement l'antenne d'une association, donc il fallait rechercher des partenaires, il fallait trouver un lieu, il fallait trouver des bénévoles, il fallait gérer l'équipe de bénévoles, la communication, trouver des fonds, répondre à des demandes de subventions, etc. Et donc on était une équipe de 4 ou 5 personnes engagées, 35 heures quasiment, voire plus, parce que souvent ça débordait un peu les soirées quand j'avais des demandes de subventions ou autres, donc à travailler pour cette personne. Et au début, le deal, c'était que si on venait travailler pour elle, elle s'engageait à nous payer au moins soit un logement, soit une forme de rétribution, au moins de la bouffe, quelque chose comme ça. Du coup, ça nous permettait peut-être pas du tout de pouvoir travailler à côté. Et personne n'a eu cette rémunération finalement à aucun moment. Le premier mois, ça s'est transformé en un mois d'essai, comme une période d'essai, une période probatoire, savoir si on était de bons bénévoles ou pas. Et finalement, ensuite, donc ce qui devait normalement être le prix d'un loyer plus le prix de la nourriture et le prix de nos frais de vie, s'est transformé en 100 ou 200 euros par mois, qu'on devait justifier aussi si on n'avait pas d'aide de nos parents, pas d'aide de l'État, etc., pour avoir le droit de gagner ces 100 ou ces 200 euros pour vivre. Cet argent-là, au bout de quelques mois, elle nous a dit, voilà, on va demander des subventions, etc. Pour l'instant, l'association n'est pas encore autonome ou ne fonctionne pas encore vraiment bien. Donc on va demander des subventions et dès qu'on aura ces subventions-là, ça va permettre d'améliorer la condition de vie des bénévoles, etc. Donc on a répondu à une demande de subvention qu'on a obtenue et finalement, au bout de quelques mois, elle a décidé de se salarier elle-même avec cet argent et donc sans aucun sans défraiement d'aucun bénévole. Sauf qu'entre-temps, on organisait des ateliers à destination d'un public réfugié. Et en gros, les ateliers se faisaient dans un chalet pour pouvoir rénover le chalet dans lequel les bénévoles étaient logés et aussi dans lequel les bénévoles devaient payer un loyer pour être là-bas. Et pour souvent se retrouver dans une chambre à deux ou dans le même lit avec un autre bénévole dans un chalet du coup non isolé en plein milieu de la montagne.
C'est non.
Mais ça fait vraiment n'importe quoi. On a vu des trucs.
Cela fait plus d'un siècle que les Français se battent pour la liberté de la presse, pour la liberté de réunion, pour la liberté d'association.